Comment sort-on de l'état de sidération dans lequel on se trouve quand on fait l'expérience du risque permanent que sont devenus l'atmosphère ambiante, les autres et l'air qu'on respire ? Dans un entre-deux qui dure, l'espace-temps liminaire et incertain d'une frontière temporelle qui s'étire, on essaie de reprendre ses esprits pour remettre ses idées en place. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire grâce à ce beau programme que nous propose Michel Agier, qui publie ces jours-ci un livre important qui s'intitule « Vivre avec des épouvantails, le monde, les corps, la peur ». Mais comme chaque soir, on commence en musique et ce soir, c'est Radiohead. Croyez-vous aux esprits, Michel Agier ?
Je crois que dans un moment comme celui où nous vivons, il est intéressant de se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans l'imaginaire. Par exemple, réfléchir avec des esprits, ceux qui peuvent, par exemple, prendre en charge nos peurs et nous aider à les transformer. Je passe un long moment dans ce livre à déboucher finalement sur cette question de ce qu'on peut faire dans l'imaginaire pour que nos peurs ne soient pas en permanence utilisées, manipulées par le monde politique, on va dire en général, qui ne sait plus faire que des politiques de la peur.
Et donc, dans certaines sociétés, notamment la société, des sociétés traditionnelles de paysans en Colombie, on voit des apparitions comme la tunda. Qui est la tunda?
Alors, la tunda est un espanto, donc un épouvante, qui apparaît, ou dont on dit qu'elle apparaît dans la forêt, dans la mangrove, et qu'elle peut attraper les enfants, attraper les jeunes hommes, amener les enfants, amener les jeunes hommes, parce que c'est l'histoire, c'est le récit d'une femme qui a fui son mari et qui est à la recherche d'un enfant. Elle attrape les hommes, leur prend le sexe et veut faire des enfants avec eux, ou bien elle enlève les enfants. Alors c'est un esprit dont on dit qu'on ne peut sortir que quand on est désenvoûté. Il faut être desentundado, être désenvoûté, et on est désenvoûté traditionnellement dans l'histoire moitié païenne, moitié catholique de la région, lorsque les parrains de la personne qui est envoûtée ou les curés capables de désenvoûtement vont jouer les tambours, jeter de l'encens et faire peur à celle qui fait peur. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que c'est un récit de la peur, et donc ça dit que il faut faire attention dans la forêt. On peut se perdre dans la forêt, on peut tomber dans l'eau, on peut se perdre dans la mangrove. Et donc c'est une incarnation finalement assez familière de la peur. C'est une épouvante, un espanto, on l'appelle une vision. Hein, c'est une vision, un esprit, une épouvante qui fait penser à ces épouvantails du Moyen-Âge qu'on voyait dans les carnavals et qui étaient aussi des représentations de la peur.
Alors, plus proche de nous, dans notre culture occidentale, Rabelais avait, par le personnage de Pantagruel, fixé aussi des moments de peur qui pouvaient exorciser une peur plus insidieuse.
La peur cosmique, c'est ce que explique l'historien Michael Bakhtin. La peur cosmique, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, l'univers face auquel nous sommes terriblement minuscule, vulnérable, tous également vulnérables devant la puissance terrestre, la puissance des cieux, la puissance des océans. Nous ne sommes rien devant cela et nous nous rendons compte que nous ne sommes rien. Alors, le peuple, au Moyen-Âge, passait un tiers de l'année en festivités de genre carnavalesque.
Quelle belle période!
Il n'y avait pas les chaînes d'info continues, il n'y avait pas tout ça. Et donc, il y avait cette...
Et il y avait les masques et que nous portons dans ce studio.
Et il y avait déjà des masques, il y avait toutes sortes de masques, et il y avait des effigies qu'on allait brûler ensuite, que ce soit des représentations de rois bouffons, de fous, ou de ces épouvantails. Et donc, l'une des représentations que Rabelais développe, reprend et écrit dans Pantagruel, c'est précisément Pantagruel qui vient et qui fait un déluge d'urine, de sang et d'eau salée sur les villes et les villages pour incarner la peur du cataclysme, la peur de la fin du monde. Et de cela, on rit et on fait une fête à l'envers d'une certaine façon.
Alors, ce qui est très intéressant dans vos démonstrations d'anthropologue et de philosophe et de sociologue, Michel Agier, c'est que quand la réalité est trop dure à supporter, eh bien, on ne supporte plus, le gouvernement politique ne supporte plus justement la fête collective, le carnaval, les masques. Vous expliquez notamment qu'en Colombie, pendant des siècles et des siècles, il y a eu des carnavals très très importants, mais que quand le pays est devenu un pays policier, eh bien là, il n'a plus supporté cette déviance. Alors comment vous l'appellerez? Cette contestation du pouvoir?
C'est le carnaval séditieux. on l'a aussi à la même époque que Pantagruel, on l'a au XVIe siècle dans la ville de Romans. Il y a ce très beau livre de Le Roi Ladurie qui s'appelle Le Carnaval de Romans, qui se termine en un combat séditieux entre les classes sociales, alors qu'au début c'était une fête. Donc le carnaval, depuis toujours, dans les pays, non pas dans l'image qu'on en a en France en particulier maintenant, où on pense à des fêtes enfantines ou des fêtes très 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 à part, très peu, ayant très peu d'effet sur la vie sociale, mais que ce soit dans l'Europe ancienne, l'Europe médiévale, ou que ce soit sur mes terrains d'Amérique latine, le carnaval est quelque chose qui fait peur au pouvoir. Il y a une dimension séditieuse qui est toujours très importante. À Trinidad, à la fin du 19e siècle, le carnaval des canbulés, qu'on les appelait, des esclaves qui s'étaient révoltés contre leur traitement sur les plantations de canne à sucre, avaient fait une révolte pendant le carnaval, pendant le défilé du carnaval. Et donc c'est toujours ce moment-là, quand la fête va devenir séditieuse, qu'effectivement elle peut faire peur et qu'elle exprime quelque chose. C'est là où il y a un élément important pour la démocratie ou pour la politique, c'est que la fête et la fête populaire exprime quelque chose. Et là, en l'occurrence, dans ces exemples que je donne, elle explique quelque chose autour des représentations de la peur, des manières de faire vivre la peur autrement que sous la forme d'une terreur.
Alors, pas de fête, pas de possibilité de fête. De nouveau un confinement. Vous avez commencé ce livre au moment du premier confinement. Vous avez réfléchi à ce qui nous est arrivé. D'ailleurs, vous dites vous-même que vous n'y comprenez pas grand-chose et que c'est cet état d'incertitude qui vous intéresse pour nous donner à nous tous des pistes de réflexion. Que nous arrive-t-il réellement ?
Alors, ce qui nous arrive, je pense que c'est un moment réellement historique. Alors, c'est un peu plus qu'une intuition, c'est quelque chose, on le voit bien maintenant avec le deuxième confinement, la préparation sans doute d'un troisième, d'un quatrième, et puis après peut-être...
Ah bon, bah dites donc, vous êtes optimiste ce soir.
Peut-être que ça changera, c'est-à-dire qu'il y aura un moment où on aura des politiques sanitaires qui suggéreront de ne plus faire de confinement général, mais des formes particulières. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un apprentissage, tous et partout dans le monde, dans un apprentissage de ce qu'on dit un peu facilement vivre avec le virus, mais c'est ou faire avec, si on veut. C'est-à-dire qu'effectivement, les mouvements de protestation, de résistance qu'on voit en ce moment, tous les gens qui râlent, pour tous de très bonnes raisons, montrent aussi qu'on s'habitue. C'est-à-dire que cette espèce de domination de ce moment biopolitique où on disait la vie est supérieure à tout, on ne bouge plus, on arrête, eh bien, effectivement, dans le monde entier, on entend ça. Et puis, la politique revient finalement. Des gens protestent, une demande d'égalité, par exemple, vient, que tout le monde soit traité également face à cette contrainte, qu'il n'y en ait pas des privilégiés par rapport à d'autres. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, les protestations arrivent. Et donc, ça veut dire que la politique arrive. Et donc, ça veut dire que nous commençons à intégrer cet élément dans notre existence. Ce qui veut dire aussi, je crois, et c'est un des éléments pour moi qui est important, quand on réfléchit à ça, c'est qu'il n'y a pas de monde d'après. Le monde d'après est déjà là. Le monde d'après est déjà là, c'est-à-dire que si on parle d'un monde d'après, c'est pour pouvoir éventuellement former des rêves, former des projections, des manières de renverser les choses.
Oui, mais justement, l'avenir est obscurci. La définition même de l'avenir est obscurcie.
Et remise à plat et remise dans un nouvel état. L'idée même qu'une rupture a lieu, l'idée même d'une catastrophe...
Vous dites que nous vivons un temps historique avec cette histoire de Covid.
Nous vivons un moment historique parce que c'est le moment où nous pouvons redéfinir dans quel monde nous vivons. Les corps, nous avons une relation différente au corps. Les frontières, bien évidemment, se redéfinissent dans ce cadre-là. Et les peurs ont une place, évidemment, différente. Et ces trois éléments-là, à mon avis, redéfinissent ce qui est en train de se mettre en œuvre dans ce contexte nouveau.
Alors, vos propositions, vos pistes de compréhension sont tout à fait passionnantes parce que vous nous faites part de vos émotions, de vos sensations, tout en étant un grand chercheur. Et par exemple, vous nous dites, ce qu'on ressent un peu tous, on sait bien que les chiffres sont dramatiques, on sait bien que le nombre des morts augmente chaque jour, qu'on est au pic de la pandémie, on ne sait pas combien de temps elle va continuer cette foutue pandémie. Et pourtant, on ne voit rien. On ne voit rien.
Je me suis rendu
on sait
compte.
Tout, mais on ne voit rien.
C'est ça, en quelque sorte. Et aujourd'hui, c'est peut-être le cas. En général, on ne voit rien que ce qu'on entend et ce qu'on voit à travers les chaînes d'infos continues, où parfois la réalité se confond avec la fiction et on n'est pas sûr que ce qu'on voit, c'est exactement la réalité. Donc c'est à la fois un événement monstrueux, énorme, monumental, planétaire, et pourtant, à moins d'être soi-même personnel soignant, à moins d'être soi-même malade ou d'être proche de personnes qui ont été malades ou qui sont décédées, pour la grande majorité des gens, on ne voit rien, on entend seulement des choses, on entend des commentaires, on voit des images des hôpitaux, on voit des images comme on a vu dans le premier confinement, qu'on ne voit plus exactement maintenant, des grandes avenues, des très grandes métropoles complètement vides. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose qui ressemble, qui a l'image un petit peu des fictions d'apocalypse, mais on ne voit rien, on ne peut pas attester, on ne voit rien directement de cet événement. On en entend parler, d'où l'importance des rumeurs, par exemple, l'importance de la parole en général dans cet événement, des commentaires, des rumeurs, et on n'est pas au contact avec une réalité physique, matérielle qu'on peut sentir directement.
Alors vous qui êtes un spécialiste des rites et de la nécessité des rites pour qu'une société fonctionne harmonieusement, expliquez-moi pourquoi on n'applaudit pas tous les soirs à 20h, dans le deuxième confinement, les personnels soignants.
Parce que l'exception devient ordinaire. L'exception devient ordinaire. Les réactions qui ont glorifié, à juste titre, le personnel médical pendant tout le premier confinement correspondaient à, justement, ce qu'on voyait dans les télévisions, qu'on entendait à la radio. On voyait tout ce personnel médical mobilisé. Pourtant, on voyait moins peut-être le personnel médical dans les mois précédents qui manifestait pour sauver l'hôpital. On disait il faut sauver l'hôpital à ce moment-là, mais rien ne se passait. Les gens ont eu des primes de salaire, mais il n'y a pas eu de très grande réforme de l'hôpital. Et là, on est dans quelque chose où on a une différence entre toujours cette politique de la peur, c'est-à-dire qui va réagir parce que les gens ont peur, il faut faire quelque chose. Par exemple, fermer les frontières nationales, mais non pas des politiques de santé publique qui consisteraient effectivement à dire peut-être que dans les années, dans les décennies à venir, les hôpitaux seront régulièrement sollicités pour des virus qui circulent plus facilement, donc il faudrait équiper autrement les milieux hospitaliers, avoir beaucoup plus d'infirmières, de médecins, etc. Ce qui n'a pas été fait. Mais cependant, dans ce deuxième confinement, on est, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une situation qui s'est pas encore tout à fait banalisée, mais où je dirais que l'exception est en train de rentrer dans l'ordinaire. Le port du masque, c'est la même chose. On n'en fait plus tout un cas, parce qu'on a compris que oui, effectivement, même là, entre nous, dans ce studio...
Y compris pour les enfants à partir de 6 ans. Et nous, on est en train de parler avec nos masques.
Et nous, on est en train de parler avec nos masques.
Et tout le monde a un masque dans la régie.
Et donc ce rite-là de l'applaudissement des personnels médicaux ne se fait plus, je crois, parce que l'événement est devenu beaucoup moins événement et beaucoup plus ordinaire, tout en gardant son caractère d'exception, puisque effectivement, des règles changent par rapport aux règles de la vie sociale ordinaire.
En tout cas, beaucoup de choses sont en train d'évoluer à bas bruit, sans qu'on en comprenne véritablement les contours ni les motivations les plus profondes. Vous qui êtes un spécialiste des frontières, qui avez écrit de très beaux livres sur les frontières, qui avez vécu dans les camps de réfugiés depuis très longtemps, vous avez inventé ce mot d'encampement, c'est-à-dire une nouvelle définition de l'humanité. Il y a une grande part de l'humanité aujourd'hui qui est encampée, c'est-à-dire qui vit dans des camps et qui vit dans un exil permanent. Et vous faites un sort à certaines politiques gouvernementales européennes qui, en ce moment, y compris la France, mais il n'y a pas que la France, qui, en ce moment, ferme les frontières, comme si le virus, il avait un petit passeport, là, et que les douaniers l'attendaient.
Exactement, comme si le virus allait ne pas passer la frontière. Et c'est effectivement la réaction, je dirais, habituelle, et on l'a bien vu dès les débuts du premier confinement, en France, mais pas seulement en France, dans de très nombreux pays, où finalement les États-nations se sont rendus compte qu'ils ne savaient vraiment faire qu'une chose, c'est fermer les frontières nationales. Il y a un problème, on ferme la frontière, qui est le signe, souvent d'ailleurs les hommes politiques le disent, on le fait pour rassurer les gens. Donc si on le fait pour rassurer, c'est qu'on reconnaît que c'est une politique de la peur, c'est-à-dire une politique non pas qui s'occupe du virus, de la maladie, du traitement, etc., mais qui s'occupe de la peur, de répondre à une certaine peur que les politiques se sentent, dont les politiques se sentent responsables. Bien évidemment, quand on regarde justement ces frontières du virus, on s'aperçoit que ça n'a rien à voir avec les frontières nationales. La première frontière que le virus nous montre, c'est la frontière du corps. Et ça, c'est terrible, c'est très important. Je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à cet élément-là. C'est pour ça que je donne autant d'importance que je peux dans ce travail, c'est-à-dire notre corps, notre peau, nos muqueuses sont les points frontières qui fait que effectivement nous avons à nous prémunir les uns des autres physiquement. Est-ce que cette distance physique doit être une distance sociale? Mais non, c'est une énorme erreur de dire cela, d'utiliser ce terme de distance sociale. Mais il a été énormément utilisé. Et donc, il a entraîné cet effet aussi, c'est-à-dire que non seulement c'est les corps, mais aussi les sociabilités autour de nos corps. On se bouge, on se met en relation les uns avec les autres. Et il a pu paraître que refermer les corps, d'une certaine façon, était refermer les sociabilités. D'où les tentatives qu'il y a eu énormément au début, dans le premier confinement, de toute cette sociabilité via Internet qui s'est développée énormément pendant quelques semaines, une longue période.
Et qui se développe beaucoup moins de manière créative dans le second confinement.
Parce que les gens se sont fatigués avec ça, ils se sont aperçus que rien ne peut remplacer la présence de l'autre, que rien ne peut remplacer l'altérité, c'est-à-dire la relation avec les autres. Le propre des humains est d'avoir besoin des autres humains. Et ça, on en fait l'épreuve. Déjà, par les corps. La deuxième frontière que j'ai vue, de toute évidence, c'est un mot qu'on a vu apparaître, qu'on ne connaissait pas en général dans le public, c'est le cluster. Le cluster, tout d'un coup, est arrivé. Et dans la tradition anthropologique, ce qui correspond au cluster, c'est l'analyse des réseaux. C'est ce qu'on fait depuis au moins les années 50. On fait l'analyse des réseaux, on a des réseaux en étoile, on a des chaînes de réseaux, on a des relations de premier niveau, des relations de deuxième niveau, de troisième niveau, et tout ça correspond finalement assez bien à l'épidémiologie. Et donc finalement, anthropologie et épidémiologie sont côte à côte dans cette affaire. Simplement, comment circulent ensuite ces réseaux qui sont toujours des réseaux de corps à corps? Ne l'oublions pas, on part de notre point de départ, ce sont les corps. Donc on est toujours dans des réseaux de corps à corps qui circulent. Et là, plusieurs géographes ont montré ces éléments-là, même si maintenant ça demande à être étayé avec des enquêtes plus longues et approfondies. Mais c'est les lieux de développement du capitalisme, là où les gens circulent le plus, en Europe, aux États-Unis, évidemment, on le voit, en Amérique latine aussi, mais un peu moins qu'en Amérique du Nord, et dans une moindre mesure, effectivement, en Afrique, ce qui fait penser que aux Africains, souvent, qui peuvent être épargnés, au moins en partie, quoi, de cette pandémie. Mais cependant, elle est partout et elle est partout de réseau en réseau. Il n'y a pas un élément de la chaîne qui ne soit pas passé par une relation d'un corps à un autre corps. Et puis au bout du compte, on arrive à la planète tout entière, la dernière frontière à ce jour, pour nous humains, c'est d'être terriens. Et donc notre dernière frontière, c'est la planète Terre. Et là, effectivement, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le niveau d'intervention, si on veut revenir à ça, c'est le corps individuel, c'est la détection des contaminations, etc., individuellement, qui passe par l'individu. Et puis c'est une politique mondiale, qui pourrait gouverner un principe d'organisation de la santé et d'organisation de la lutte contre le virus à l'échelle planétaire, puisque quand ça
on
se
est
fait,
dans Orwell là d'après ce que vous racontez.
C'est pas forcément une version. Il n'y a pas que une version négative de Orwell. Je crois que comment arriver à ce qu'il y ait un gouvernement de la santé mondiale. On le voit bien que quelque chose existe qu'on appelle l'OMS.
En tout cas, l'OMS n'a pas pu être respecté et n'a pas été très respectable, d'ailleurs, d'après ce qu'on a compris au tout début de l'épidémie.
Parce que
ils ont suivi les Chinois, ils ont fait silence et
les intérêts des États ont été supérieurs à l'intérêt global. Je pense que là, ça pose le problème.
Et on a eu beaucoup de retard par rapport au début de la pandémie.
Oui. Ça pose le problème, alors qui est bien plus loin dans le raisonnement, mais je pense que, et c'est d'ailleurs là-dessus que je débouche, parce que c'est la chose, à mon avis, la plus réaliste, pose le problème d'une cosmopolitique, d'une politique monde, puisque pour être effectivement efficace, on le voit bien, c'est à l'échelle mondiale que ce virus existe, comme beaucoup de problématiques. Vous parliez des migrations, mais évidemment le climat, l'environnement et maintenant la santé globale sont des questions qui doivent se résoudre aussi, pas seulement, mais aussi à l'échelle mondiale.
Alors certains disent, et ils ont été nombreux à un moment, on les entend un peu moins maintenant, que ce qui nous arrive avec cette saloperie de pandémie, ça serait une vengeance de la Terre. Que finalement, à force de faire offense à la Terre, et on lui fait offense, ô combien brutalement et de manière quotidienne, la Terre se serait vengée. Et ça, vous n'aimez pas du tout ces thèses. Vous trouvez qu'elles sont complotistes, Michel Agier ?
Non, pas du tout. Pas du tout complotistes. Je pense que d'un côté, elles sont un peu naïves, même si elles ont une visée pédagogique ou politique, c'est-à-dire une manière de vouloir faire prendre conscience, on dirait. Mais l'idée que la Terre a une âme et que cette âme décide de quelque chose, ça déresponsabilise les humains. C'est tout. C'est la seule objection, mais elle est importante puisque maintenant on l'entend beaucoup et on peut dire que dans cette situation aujourd'hui où énormément de diverses sortes de catastrophes, on peut utiliser le terme, arrivent, c'est une multitude de catastrophes diverses qui arrivent, ou des risques arrivent de toutes sortes, qu'ils soient naturels ou autres. Attribuer à la Terre l'idée d'une vengeance contre les humains globalement, ça voudrait dire que chaque humain personnellement doit se dire « Ah, qu'est-ce que j'ai mal fait, moi, à l'égard de la Terre ?» Bon, je ne suis pas sûr d'être coupable, mais il faudrait donc que j'accepte d'être coupable. Et puis surtout, ça ne dit pas qui est effectivement responsable, par exemple, de la déforestation massive en Amazonie. Mais pas seulement en Amazonie. Et donc, repenser par exemple tout le problème de l'agro-industrie, là aussi à l'échelle mondiale, qui passe par divers pays qu'on connaît bien. Mais
en fait, on est gouverné, dites-vous, par des grands trusts internationaux qui décident de nos vies.
C'est plutôt, effectivement, je dirais plutôt qu'on est dans un système où le capitalisme débridé, sans contrôle, détruit les vies végétales, animales et humaines, et où donc c'est cela qu'il faut traiter, c'est de cela dont il faut s'occuper. Ce serait baisser les bras que de dire que la Terre se venge unilatéralement et simplement.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, et sans doute en raison de son passé brésilien, vous écoutez le choix musical de Michel Agier. Pour notre plus grand bonheur, c'est Chico Buarque.
Avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões detintos. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
Furtive devant le palais présidentiel. Jair Bolsonaro salue les caméras afin de rassurer sur son état de santé. Sa contamination au Covid-19 n'a pas fait changer de ton le président brésilien. Au moment de l'annoncer mardi, en conférence de presse,
mon test est positif. Oui, il est positif.
Il recule de quelques pas pour mieux poursuivre ses provocations sur les gestes barrières et les risques de l'épidémie, en retirant son masque.
Nous venons d'entendre cette très belle chanson de Chico Buarque via Vai Passar, qui est une chanson éminemment politique, dont il faut expliquer le contexte, Michel Agier. Et puis on vient d'entendre un court reportage, c'était au Brésil, avec Bolsonaro, c'était le 11 juillet dernier. Effectivement, Bolsonaro, Trump, et pas seulement ces deux-là, dénie la réalité de la pandémie. Alors, comment affronter celles et ceux qui sont des présidents de grandes nations et qui nient la réalité, y compris dans leur propre corps.
Alors Bolsonaro, effectivement, c'est un petit Trump tropical, hein, comme on l'a appelé, comme on l'appelle au Brésil. Il est dans la dénégation, il est dans cette espèce d'affirmation virile, entre guillemets, c'est-à-dire même pas peur. C'est exactement ça, la formule, même pas peur. C'est une forme qui est très proche de celle de Trump ou d'autres, qui consiste à dire, le virus n'existe pas, ou bien on peut le chasser avec des images du Christ, par exemple, comme lui-même l'a fait, et puis il faut se remettre au travail. Ce qui est intéressant au Brésil, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ce sont les gens eux-mêmes qui ont organisé leur politique sanitaire, si on peut dire, renverser la biopolitique, puisqu'on l'attribue en général au pouvoir et au pouvoir d'exception. Le pouvoir d'exception, le pouvoir n'appliquant pas l'exception, et bien les gens eux-mêmes, notamment dans les favelas, mais je l'évoquais aussi dans le camp de Moria, par exemple, ont formé eux-mêmes des brigades, eux-mêmes pour expliquer aux habitants comment faire, porter des masques, se laver les mains, et c'est très compliqué dans les milieux les plus pauvres et les plus précaires. Bien évidemment, il y a une profonde inégalité sociale devant le virus, dans les milieux où la promiscuité et la difficulté à se laver, à avoir de l'eau, du savon, etc. est bien plus importante que dans les classes moyennes et supérieures. Et donc là, c'est le peuple lui-même, d'une façon, qui a réagi. La provocation de ce président-là, Bolsonaro, avait un autre élément que j'évoque dans le livre, qui est de dire moi, je décide moi-même de ce que je vais faire avec mon corps, parce que j'ai même pas peur. Et il a donc imposé à un des gouverneurs et aux gens qui l'entouraient en général de donner l'abrasso. L'abrasso, c'est l'embrassade. Et évidemment, voilà, l'embrassade qui est devenu même une partie du patrimoine culturel brésilien, est évidemment porteur de virus. Et donc ça effraie souvent les gens qui se trouvent en face de lui. Mais il faut savoir que cet abraço, c'est quelque chose qui a toute une histoire, cette proximité physique de celui qui domine sur celui qui est dominé. Et la forme même du racisme brésilien a eu cette forme qu'on a dite étrangement cordiale, un racisme cordial. C'est un peu l'oxymore qu'on a fabriqué au Brésil, qui voulait dire qu'on peut être dans la plus grande exclusion et le rejet le plus fort de l'autre inférieur, de l'autre noir, tout en lui tapant sur l'épaule ou en l'embrassant. Et des mouvements ont existé. C'est pour ça que je trouve intéressant, dans les mouvements noirs au Brésil, des gens ont développé, entre autres au carnaval, c'est pour ça que je trouve le carnaval aussi comme une scène importante, cette politique qui consistait à dire « ne me touche pas ». Ne me touche pas à celui qui est supérieur, au blanc, qui a cette attitude-là, paternaliste et dominatrice. Ne me touche pas. C'est très non me toque. C'est très 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 important sur le plan de la politique, on va dire, des relations sociales. Et c'est également intéressant de voir que là, Bolsonaro impose l'abrace avec cette dimension physique. Juste un mot encore sur le Vai Passar de Chico Buarque, c'est une chanson qui date de 84, juste au moment où la période où la dictature allait bientôt s'achever. Et donc, dans les paroles de cette chanson, elle commence avec la mention à une page malheureuse de notre histoire. Notre mère patrie, si distraite, s'est endormie sans voir qu'elle était enlevée dans de ténébreuses affaires dont on va sortir, parce que Vai Passar est le jeu de mots, puisque Chico Buarque faisait toujours des jeux de mots dans ses chansons pour passer la censure. Le défilé va passer, Vai Passar, et ça va passer, Vai Passar, la dictature va passer.
À vous lire, on n'a pas l'impression, Michel Agier, que le virus va passer, hélas, on a l'impression qu'il va s'installer, qu'il va falloir s'habituer à cette lenteur. Vous précisez que nous assistons à quelque chose de très lent, de très invisible. Tout ça, ce sont des phénomènes nouveaux. Vous insistez sur le fait que la peur peut devenir un instrument politique qui va nous faire accepter finalement une forme d'abdication de nos propres libertés. En même temps, on peut pas en vouloir aux hommes politiques de prendre des mesures sanitaires, puisque, vous le soulignez, nous vivons une période où la biopolitique règne pas partout dans le monde. Hein, pas partout dans le monde, mais en tout cas dans la plupart de nos pays occidentaux. Et celui qui a attiré dans le monde intellectuel il y a maintenant longtemps notre attention et qui a forgé ce concept de biopolitique, c'est Michel Foucault. Et je crois qu'il faut relire en ce moment Michel Foucault. Et il faut comprendre à quel point il a été visionnaire de la gestion de nos corps, de la gestion de nos risques sanitaires dans une société qui devrait préserver sa propre démocratie. Alors je vous propose d'en écouter un court extrait. On va écouter la voix de Michel Foucault. C'était en novembre 1963.
Comme si le corps, cette chose si indubitable pour nous, cette chose si résistante, souvent à ce que nous voulons, cette chose si entêtée, n'avait en réalité qu'une existence extraordinairement précaire, suspendue à sa propre ombre. Comme si ce corps unique, le nôtre, était bien difficile à maintenir dans son identité, et comme s'il était prêt toujours à s'échapper, à se multiplier comme une éponge monstrueuse. Tenez par exemple, on croit qu'il est difficile de voir son propre corps, puisqu'on est pris en quelque sorte à l'intérieur de cette petite cellule, on est pris dans son corps, on a les yeux bien encastrés dans la tête, et au fond, on ne voit jamais directement, en tout cas, son dos, ni ses côtés, ni le dedans de son crâne. Et pourtant, il doit bien y avoir un œil imaginaire, un œil tout-puissant, fantastique, qui courrait le long de notre corps et qui s'éveillerait parfois sur la flore merveilleuse des organes, sur leurs tiges blanches et rouges, sur leur écume. Et voilà que, devant cet œil tout-puissant, le corps s'éparpille, comme dans un aquarium démesuré. Le corps n'est plus alors qu'une sorte de grande fleur morcelée, non plus cette présence chaude de moi-même à moi-même, où je me loge, où je m'endors, une sorte de jardin inquiétant, givré, où poussent silencieusement des cristaux savants, sous un regard subtil, ailé, lointain comme un aigle, un regard qui est à la fois angélique et meurtrier, et le miracle absolu se produit. L'œil, alors, peut se voir. Il peut se voir lui-même, hors de lui-même, comme une toute petite boule brillante, comme un bijou perdu.
Nous venons d'entendre la voix de Michel Foucault et outre la profondeur de son esprit, je dois dire que la grâce d'élocution, la richesse du langage, la poésie de Michel Foucault nous frappe en plein cœur, Michel Agier.
Et puis il y a quelque chose qui m'interpelle énormément et qui correspond pour moi à l'idée du décentrement que je développe beaucoup dans cet ouvrage, c'est se voir lui-même hors de lui-même, s'extraire de soi pour pouvoir se voir, s'observer comme une chose, comme un objet, comme un corps en mouvement ou plus ou moins en mouvement. Et c'est cela l'exercice de réflexivité finalement que tout le monde peut faire, que tout le monde a intérêt à faire, se retourner sur soi-même, se retourner sur sa propre existence. Et c'est comme ça qu'il me semble que cela nous permet de mesurer l'importance pour nos corps de la situation que nous traversons, alors que nous en faisons
prendre beaucoup. Soin de nous. L'idée c'est même prendre soin des autres.
Exactement, l'idée du souci de soi, du soin de soi, autant que des autres, est important. Et là, dans ce moment où nous sommes, pour beaucoup, appelés à être repliés sur nous-mêmes, le rester chez vous, qu'on a beaucoup entendu, en tout cas au premier confinement, restez chez vous, enfermez-vous, encampez-vous, restez sur votre propre corps. Il a fallu, et il faut encore, je crois, que nous fassions cet exercice de réflexivité, c'est-à-dire de sortir de nous-mêmes, non seulement, comme le dit l'anthropologie, sortir de soi pour aller vers les autres, pour aller voir le monde, et ça c'est indispensable, mais c'est sortir de soi aussi pour se voir soi-même parmi les autres. Et lorsque les autres ne sont presque plus accessibles, eh bien, reconstruire cette altérité. C'est pour ça que j'ai, là, dans ce livre, beaucoup cherché des exemples qui semblaient partir dans d'autres époques ou dans d'autres lieux en Afrique ou en Amérique latine, parce que j'avais besoin de cette altérité pour comprendre ce qui était en train de se passer. Donc un corps tout seul, même quand on se retourne sur soi, on ne voit jamais qu'un corps tout seul, on voit le corps avec les autres.
Alors, vous nous conviez aussi à des réflexions, évidemment, comparatives. Il y a toujours plus malheureux que soi. Vous nous rappelez que cette épidémie touche, évidemment, les personnes les plus fragiles, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan géographique. Maintenant, on a, hélas, des statistiques qui viennent attester de cette profonde inégalité devant ce virus. Mais il y a aussi une expérience à laquelle vous nous conviez. C'est vous nous dites... Eh ben écoutez, nous on est confinés, deuxième confinement, on râle, mais il y a des gens auxquels on pense pas souvent et qui sont confinés depuis très très longtemps, c'est ceux et celles que vous fréquentez depuis des décennies, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans des camps.
Alors effectivement, j'évoque, parce que là ça m'est venu tout en étant chez moi, parce que un photographe et une écrivaine ont voulu faire une enquête sur le camp de Moria, peu de temps avant son incendie en fait, et m'ont fait part de leur enquête, et nous avons échangé à ce moment-là. Et comme j'avais effectivement avant ça, par d'autres sources, accès à pas mal d'enquêtes qui se sont faites sur l'île de Lesbos et l'arrivée des migrants et réfugiés dans le camp de Moria ou les autres camps, tout n'est pas pareil, tout n'est pas égal. Il y a un peu de tout sur cette île de Lesbos, mais effectivement sur ce camp de Moria. On avait la double peine des confinés en campé, c'est-à-dire effectivement au bout d'un moment, quand il y a eu, alors il y a eu dans un premier temps ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire les migrants eux-mêmes dans le camp de Moria qui avait 10 000, 13 000 habitants, alors qu'il devait en avoir 3 000 au grand maximum. À un moment donné, c'était monté à près de 20 000. C'était invivable, c'est des conditions terribles. Et aucune aide pour faire du dépistage ou pour faire des barrières, des gestes barrières, etc. C'était les migrants eux-mêmes qui s'étaient organisés pour dépister et contrôler le virus. Lorsque les premiers cas sont apparus, on les a mis dans un hangar à l'intérieur du camp de Moria, qui était lui-même un enfermement. Et donc ce double enfermement a provoqué une sorte de folie qui était inévitable dans ce contexte-là et a provoqué cet incendie du camp de Moria en septembre dernier. Donc là, effectivement, c'est un exemple où on voit bien évidemment que pour un égal virus, le même qui circule partout dans le monde, les conditions sociales sont extrêmement diverses. Les capacités de résistance sanitaire sont évidemment très, très inégales.
Alors, à la fin de votre ouvrage, Michel Agier, il y a une petite lumière. Vous dites que de toute expérience, même extrêmement déstabilisante comme celle que nous vivons, il y a des enseignements à tirer. Vous dites que nous ne devons pas accepter d'être gouvernés par la peur, que la peur n'est jamais bonne conseillère et qu'elle peut entamer notre démocratie. Que pourrait-on essayer d'imaginer comme perspective positive devant cette adversité qui dure et qui va continuer, si j'ose dire, à durer ?
Je me révolte contre le gouvernement de la peur, mais pas contre la peur elle-même. C'est-à-dire que je pense que avoir peur est une chose normale et le principe même de l'humain dans le monde. C'est comme ça que nous percevons notre place dans le monde, cette vulnérabilité. C'est le principe même de la peur cosmique, cette peur que nous ne sommes presque rien face à tout ce dont le cosmos est capable, la puissance du cosmos. Comme autrefois, nous avons toujours cette peur. Et ça s'amplifie parce que les risques industriels, le nucléaire, la chimie ont ajouté des risques, ont ajouté à l'état naturel des risques qui sont effrayants. Les peurs existentielles, la mort, la violence, la maladie sont là pour nous alerter, et ce sont de bonnes alertes. Ce ne sont pas forcément de bonnes conseillères. Et finalement, lorsque les peurs deviennent sociales ou politiques, à ce moment-là, effectivement, on s'aperçoit qu'on peut avoir de très mauvaises politiques. Comme je le disais, fermer les frontières nationales, voire confiner toute une population, ça n'est pas une politique sanitaire, c'est une politique de la peur. Et là, il y a une différence qui me semble importante de faire. Et donc, c'est pour ça qu'une bonne partie de l'ouvrage consiste à dire aussi, mais alors, que pouvons-nous faire de nos peurs? Ce que nous pouvons faire de nos peurs, c'est les remettre dans l'imaginaire et les transformer, par exemple, sous des formes artistiques, sous des formes comiques, de renverser la peur, ou comme disait Goethe, lorsque la peur me prend, j'invente une image, et donc produire des images de cette peur pour l'objectiver et la sortir de nous-mêmes, de notre corps et de notre esprit.
J'allume le soleil. J'allume le soleil. Impression, soleil levant. Du vent, les heures tournant, colorant la cathédrale de Rouen. À Paris, il lèche les toits. Marrakech, El Koutoubia. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Les bimbotocs, les filles belles, les black blocs et les prix Nobel. Comme le roi soleil Louis, il croit que tout le monde est à lui. Mais le pire, c'est l'empire qu'il a sur Malora. Il n'a de cesse qu'il caresse Laura, ma Laura. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Jaloux du soleil. Moi j'attends dans le couloir. Moi j'attends son bon vouloir. Et lui soleil malhonnête, il rentre par la fenêtre de Laura adorable. Allongé sur son drap bleu. Jaloux du soleil.
Et c'est avec Alain Souchon qu'on va se quitter ce soir. Vivre avec des épouvantails, c'est le nouveau titre du livre de Michel Agier qui vient juste de paraître aux éditions Premier Parallèle. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Alexandra Brouillet, Céline Villegas, Élodie Royer. Merci à Lilian Allôme et Claire Destacan qui ont réalisé cette émission. Et merci à Julien Dumont qui est à la régie technique. Et puisque j'ai la chance d'avoir Mishka avec moi... Que va-t-il se passer ce soir après le prochain journal de la rédaction, mon cher Mishka?
Eh bien, on va rester
toujours dans... la country.
Mais oui, on va rester dans l'actualité avec l'Amérique profonde et vous allez
alors,
entendre.
On est en train de regarder les chiffres là. Ça va mieux pour Biden là.
Oui, mais enfin, faut pas crier victoire.
Non,
plus,
bah hein. non, mais ça va un peu mieux. Donc, c'est comme le soleil de Souchon. Donc la country.
Oui, et des voix qui vont vous impressionner.
Bon, ben j'en suis sûr. Donc, à tout à l'heure, Mishka.
À tout à l'heure.